grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canut si vous nous rejoignez. Il est l'heure du Canut Info pour ce jeudi 23 mars 2017. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Ensuite, ça sera autour de la petite cuillère. Ce soir, Laurent, vas-tu bien ?
Oui.
Ça va, malgré les malheurs du monde, tu vas bien ?
On est obligé.
Ah, on est obligé. Mince, alors si tu le prends comme ça. C'est vrai que bon, il s'en passe hein, des choses dans ce monde. Laurent vous disait la semaine dernière qu'on faisait comme on voulait avec nos sujets. Ça sera encore le cas ce soir puisque Laurent nous emmènera en Afrique avec tout un tas de sujets parce que c'est un grand continent et qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Nous partirons par les répressions aux Émirats Arabes Unis par exemple. Nous parlerons religion avec par exemple l'Inde et l'Alsace aussi d'ailleurs. Nous parlerons des luttes avec le musée Rodin à Paris en grève. Nous reviendrons sur Calais et je vous parlerai de dinosaures. Je vous l'ai promis la semaine dernière. C'est typiquement le genre d'affaire où si vous éteignez juste avant ce sujet la radio, ce n'est pas grave, ça ne changera pas votre vie. Mais ça fait partie des infos que Radio Canut peut aussi vous raconter. Un peu de science, un peu de profit, voilà, c'est aussi tout ça, les dinosaures. Et puis nous parlerons aussi des véganes et puis peut-être du vélo si nous avons le temps, mais c'est vraiment, vraiment pas sûr. Mais pour commencer ce Canut Info, je vous propose de parler de transparence et de cacophonie. Et là, vous me dites, oh, elle va parler encore de Monsieur Fillon, de Madame Le Pen ou de tous ces élus qui ont des soucis. Non, non, je vais vous parler d'agroalimentaire pour commencer. C'est bien connu, la transparence règne dans le secteur de l'agroalimentaire. Et c'était hier, Monsieur Thierry Cottière, président du groupement des Mousquetaires, Intermarché, a annoncé qu'il mettrait en place au mois de juin le code nutritionnel préconisé par le ministère de la Santé sur les produits de ces marques distributeurs. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça représente quand même 31% du chiffre d'affaires du groupe. Et puis, c'est la première enseigne à se lancer. Et vous savez, dans cette histoire de code nutritionnel, c'est une affaire de cacophonie et de non-transparence, en l'occurrence. Plus d'un an après l'adoption de son principe dans la loi de santé publique, le modèle officiel d'étiquetage nutritionnel simplifié a été annoncé par la ministre de la Santé, Madame Touraine, le 15 mars dernier, la semaine dernière. C'est donc un système coloriel qui s'appelle Nutri-Score qui a été choisi et il va être officialisé par arrêté début avril. Donc c'est l'idée, hein, le coloriel, vous aurez compris, il y a des produits qui sont répartis entre le vert et le rouge-orangé foncé. Voilà, pour vous puissiez mieux comprendre ce que vous achetez au supermarché en l'occurrence. Alors c'est un système qui a été élaboré par l'INSERM et il faut savoir que face à ça il y a forcément de la réaction. Début mars il y a 6 multinationales de l'agroalimentaire, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Nestlé, Pepsi, Unilever qui ont annoncé vouloir lancer à l'échelle européenne leur propre code nutritionnel. Donc c'était un moyen bien évidemment de couper l'herbe sous le pied de Madame la Ministre, puisque l'annonce officielle du code nutritionnel préconisé par le ministère devait être faite le 28 mars, c'est-à-dire pas tout de suite, et en fait le ministère est allé bien plus vite pour répondre aux multinationales de l'agroalimentaire. Du côté de l'ANIA, hein, vous savez, ce syndicat corporatiste des industries alimentaires en France, avait proposé de son côté le Nutri-Repère. Là, c'était un logo bleu ciel avec tout un tas d'informations en pourcentage. C'était présenté comme une amélioration des repères nutritionnels journaliers. C'était un petit peu l'idée du Nutri-Marque, hein, le logo lancé par Leclerc en 2016. Et puis, du côté de la Fédération du commerce et de la distribution, on avait soutenu le logo Sens. C'est un logo coloré qui indique la fréquence souhaitable par portion. Le problème de ces codes dont je viens de vous parler, c'est qu'on ne parle plus en grammes, si vous voulez, ou en milligrammes. On parle en portions, c'est-à-dire que si vous avez un biscuit avec des emballages, vous savez, maintenant, on vous met une boîte en carton, puis avec des emballages à l'intérieur, eh ben, on va vous prendre une portion qui devrait être recommandée par la journée. Donc forcément, ça vous fait baisser le gras et le sucre, hein, puisque d'un seul coup, vous mangez plus qu'un gâteau, puisque ça serait ce que vous devriez manger pour que ça soit correct. Donc c'était aussi un petit peu un moyen de noyer le poisson. Ce qui est compliqué avec ce Nutri-Score, c'est que les industriels ne sont pas obligés d'apposer ce code sur leur paquet. Donc c'est d'une grande utilité, vous allez me dire.
Donc ils ne le mettront que sur les produits qui s'approchent du vert, et tous les produits pourris, eh ben, ils ne le mettront pas, bien évidemment.
Eh bien, bien évidemment. Et finalement, on peut dire que dans l'agroalimentaire, c'est un peu comme avec cette élection présidentielle. Il n'y a pas de transparence, mais par contre, il y a une très belle cacophonie qui règne, puisque finalement, ça ne va pas changer cette affaire grand-chose pour l'instant, ce nouveau logo.
Il y a de la transparence dans cette élection quand même. On voit des gens de droite, de gauche bouger. Là, Macron, il a récupéré plein de gens de droite. Alors, ceux qui croyaient qu'il était de gauche, là, je crois que c'est mort. Oui. Voilà, il y a un peu de transparence. On sait même à peu près les biens possédés par ces candidats qui sont censés nous représenter.
Enfin, oui, bon, allez voir, parce que c'est très drôle, comme ça vous pouvez savoir un petit peu la gueule de leur bagnole, vous verrez, il n'y en a rien du tout.
Ceci dit, c'est comme avec l'industrie, il faut les croire sur parole, puisqu'il n'y a pas de vérification et pas de poursuite.
En tout cas, moi j'ai noté que M. Fillon avait deux belles montres à plus de 10 000 euros chacune.
Ouais, et que il y a finalement très peu de candidats respectables, c'est-à-dire M. Poutou et la candidate de Lutte Ouvrière, qui eux ont vraiment pas grand-chose.
Oui, ou les choses que tout un chacun pourrait à peu près avoir, après avoir un petit peu travaillé, mis de côté, dirons-nous.
Donc on va faire effectivement une grosse page Afrique, on le fait pas souvent, ou en lien avec la France-Afrique, hein, puisqu'on aime bien parler aussi de la France-Afrique, et on va commencer par le procès de Boris Boillon qui s'est ouvert aujourd'hui, alors qu'il aurait dû s'ouvrir aujourd'hui, ce matin. Donc c'était un copain protégé, un ami de Nicolas Sarkozy. Donc, il a eu un peu une heure de gloire. Hein. On se rappelle de la couverture d'un magazine tunisien où il posait avec un beau costard. Enfin, on aurait dit James Bond, un petit peu dans le look, tout ça. Alors ça, c'était en 2011. Il a été ambassadeur de France à Tunis. Avant, il a été, je crois, à Bagdad. Enfin, voilà, dans les milieux diplomatiques. Il est aujourd'hui poursuivi. Et il passait devant la justice, il aurait dû passer devant la justice, devant le tribunal correctionnel de Paris très exactement, pour blanchiment de fraude fiscale. Alors on va remonter un petit peu dans le temps. 31 juillet 2013, il est arrêté à la gare du Nord de Paris avec une petite valise, une mallette, et dans sa mallette, pas mal de billets de 500 euros, très exactement, 350 000 euros et 40 000 dollars. C'est pas mal de transporter autant d'argent. Ça fait beaucoup. Hein. Ça se trouve, vous n'aurez pas tout ça dans votre vie entière, de travailleur ou de travailleuse. Donc, lui, il avait ça dans sa petite valise. Bien évidemment, il est interdit de se déplacer avec autant d'argent en France sans le déclarer aux douanes. Il faut au-dessus de 10 000 euros. On doit le déclarer. Bref, d'où vient cet argent? Question que les enquêteurs n'ont pas vraiment répondu. Lui, il dit que ça vient de sa société qui s'appelle Spartago, qui travaillait en Irak. Bon, il y a quand même pas mal de doutes, des doutes sur le fait qu'il ait récupéré cet argent soit au Moyen-Orient, soit vraisemblablement en Afrique, voire auprès de la Libye de Kadhafi, parce qu'on se rappelle, en tant qu'ami de Sarkozy, Sarkozy est poursuivi pour avoir reçu de l'argent de Kadhafi et qu'ils étaient très très proches du dictateur libyen. Donc voilà, on se rappelle aussi qu'en 2012, hein, Hollande l'a viré. de son poste d'ambassadeur parce que c'était pas quelqu'un de très très respectable. Donc on retrouve un petit peu ce qui fait la France-Afrique, hein, la collusion entre les politiques français, les débarbouzes ou des diplomates, hein, lui il est un peu entre les deux, et puis les régimes soit dictatoriaux, soit autoritaires, soit corrompus, soit les trois en même temps, africains, issus de la France-Afrique, hein, de cette Afrique de l'Ouest essentiellement, mais pas que. Hein. Voilà. Alors malheureusement, on a appris cet après-midi que le procès était repoussé au mois de mai, comme par hasard après la présidentielle. Peut-être que il y a eu un moyen d'évacuer tout ce qu'il aurait pu dire, tout ce qu'il peut dire, qui pourrait parasiter la campagne de la droite, qui est déjà bien mal partie, hein, mais parce qu'on y aurait pu avoir des révélations. Je ne sais pas quelle est la raison réelle du report de ce procès, mais on peut quand même avoir pas mal de doutes. Alors on bouge, on va en Mauritanie, du côté du dirigeant mauritanien qui s'appelle Mohamed Oud Abdelaziz, donc qui porte son projet de révision de la constitution mauritanienne, projet dont on va discuter un petit peu du contenu après. Et alors, ce président, un petit peu autoritaire quand même, hein, on peut le dire, Mauritanie, un pays qui a encore de l'esclavage, même si officiellement non, mais dans les faits malheureusement si, il a annoncé à la télé ou à la radio, je sais plus, que devant les débats qu'il y avait autour de cette révision constitutionnelle, il lançait un référendum. Pour ou contre cette révision constitutionnelle. Alors, il faut dire que dans l'ordre des choses, il a d'abord essayé de le faire passer, cette modif constitutionnelle. Donc, c'est passé au Parlement, et puis quand c'est arrivé au Sénat, pouf, il y a plein de sénateurs qui ont dit non. De son camp, notamment. Faut dire que dans la révision constitutionnelle, ça supprime le Sénat. Donc ça, on imagine qu'en France, ça sera la même chose. Hein, même le parti au pouvoir qui décide la suppression du Sénat, ses amis élus au Sénat, sénateurs, donc, vont voter contre, parce qu'ils vont perdre leur boulot. C'est un peu ça, le concept. Donc il y a eu ça. Alors il n'y a pas que ça, hein, puisque dans le projet, il y a pas mal de polémiques, de discussions autour de certains articles. Donc il n'y a pas que la suppression du Sénat, hein, y a une grosse partie de décentralisation, de redonner du pouvoir aux régions, et ça c'est plus ou moins bien perçu en Mauritanie aujourd'hui. Donc dans les faits, il y a aussi deux articles, le 26 et le 28, qui ont fait beaucoup parler d'eux. Le premier, il fixe à 75 ans l'âge limite pour être président de la Mauritanie. Ça n'a pas plu à tout le monde, notamment le parti de l'Alliance, qui s'appelle l'Alliance Populaire Progressiste, le parti de Messaoud Oud Boulker, qui est pas d'accord, parce que justement Messaoud Oud Boulker, pour la prochaine présidentielle en 2019, il aura plus de 75 ans. Donc c'est un peu des gens qui s'opposent parce que ça les concerne. C'est quand même un peu ridicule. Et puis il y a aussi le fait que dans l'article 28, il y a une limitation à deux mandats. C'est des choses qui sont plutôt positives, hein, du coup, dans cette réforme constitutionnelle. Sur ce côté-là, pas forcément sur le côté décentralisation. Limité à deux mandats présidentiels pour un candidat. Et là, c'est le parti du président qui est contre, parce qu'ils aimeraient bien représenter leur candidat une troisième fois. Sauf que le président actuel veut pas se représenter une troisième fois. Il l'a dit, non mais moi j'arrête. Bon bref, c'est compliqué la situation en Mauritanie. Il y a pas mal d'opposition. Et du coup, le président, pour essayer de résoudre le problème, lance cette consultation populaire. Alors, si on écoute les opposants, quand même, il y en a qui doutent du projet. Alors, je cite un opposant, M. Babamine, qui dit « Parce que la suppression du Sénat n'est pas un sujet pour nous, alors c'est la raison pour laquelle il s'oppose, donc, parce que ce n'est pas au président qui va quitter le pouvoir de réaliser une régionalisation, parce que c'est du cinéma organisé par un homme qui ne pense qu'à se succéder à lui-même. » Alors, bon, on n'est pas sûr non plus de la cohérence de cet opposant. Même s'ils sont sceptiques. En tout cas, la situation en Mauritanie ne semble pas très très bonne. On rappelle que dans les opposants, notamment, il y a ceux qui s'opposent à la création d'un poste de vice-président qui n'existe pas aujourd'hui, et notamment les représentants de la communauté haratine. Donc la communauté haratine, c'est les Noirs. La Mauritanie, hein, il y a grosso modo deux types de population, ceux qui sont issus qui viennent du Nord, donc qui sont issus du Maghreb, qui sont les Arabes, qui dans le pays, on les appelle les Blancs. Et les Noirs, donc les morts issus des tribus Peuls notamment, qui sont dans cette région, qu'on appelle la communauté Aratine, l'autre communauté, les Blancs, on les appelle les Bédanes. Donc voilà. Et il y a une lutte de communauté comme ça, puisque ce poste de vice-président, la communauté aratine pense y avoir droit, puisqu'ils n'ont jamais droit à rien au pouvoir. Il faut savoir qu'en Mauritanie, les morts noirs, donc cette communauté aratine, elle est quand même beaucoup exploitée, elle a accès à très peu de pouvoir. Et par contre, les bédanes, donc ce qu'on appelle les blancs, donc les arabes, entre guillemets, hein, ils sont issus des arabo-berbères hein, qu'il y a dans la région, eux, ils ont toujours presque tout le pouvoir. Donc là, ce poste de vice-président donnerait un bout, une parcelle de pouvoir à la communauté aratine, c'est ce que laisse entendre la réforme, et du coup, les bédanes s'y opposent. Donc voilà, il y a toujours aussi cette persistance de racisme, d'inégalité de traitement entre ces deux communautés dans ce même pays, qui fait que la Mauritanie avance pas vraiment, et ce n'est pas un pays pour l'instant qu'on peut qualifier de progressiste, hein, loin de là. Alors on continue dans les infos africaines de ce jour. Un petit mot sur la France-Afrique à l'ancienne avec du business, puisque Monsieur Emmanuel Issos N'Gondé, Premier ministre du Gabon, alors il est accompagné par plein de gens, hein. Il y a le ministre de l'économie, le ministre de la promotion des investissements privés, du commerce et du tourisme et de l'industrie, le directeur général des fonds gabonais d'investissement, tous ces gens-là, ils sont où? Ils sont à Paris. Alors, ils sont accompagnés aussi de Alex Bongo Ondimba, alors le frère d'Ali Bongo, tristement célèbre, hein, dictateur enfin, ou chef autoritaire, vous l'appelez comme vous voulez. Ils sont à Paris, ils sont arrivés hier et ils repartent demain, donc 3 jours à Paris, pour rencontrer notamment les investisseurs français et le MEDEF. Eh oui, puisqu'il y a une commission Afrique au MEDEF. comité, on dit pas une commission c'est un truc un peu de gauche. Au MEDEF, on dit comité Afrique du MEDEF international, s'il vous plaît. Et donc, ils sont en train de négocier, comme d'habitude, des choses par derrière les populations. Personne dénonce, ils sont là, tranquilles. Le MEDEF accueille à bras ouverts les investisseurs français aussi. Et pourtant, le régime gabonais est un régime qui est quand même plutôt douteux. Notamment, les résultats de l'élection présidentielle du 27 août de l'année dernière n'étaient pas très très régulier. On note aussi de la répression contre les travailleurs du Gabon, hein, puisqu'on a eu il n'y a pas longtemps des blessés. Hein, par la police, c'était des travailleurs qui manifestaient, qui étaient grévistes bien évidemment, de la société pétrolière Morel & Prom, dirigée par un Français. Ah oui, tout s'explique. Et puis il y a même eu une suspension d'un syndicat, la Confédération syndicale du Gabon, par le gouvernement, donc c'est un vrai gouvernement autoritaire. Alors vous allez me dire, le patronat et le MEDEF ont l'habitude de collaborer avec les régimes autoritaires, avec les autorités autoritaires, avec les fascistes. Dans l'histoire hein, du patronat français, il y a moult exemples. Donc effectivement, le MEDEF est dans cette tradition de soutenir les régimes autoritaires, notamment là du Gabon. Voilà, ça se passe en ce moment à Paris. Alors on va parler de choses un peu sympas maintenant, enfin une chose qui est un progrès. On va parler du Nord-Kivu. Nord-Kivu, c'est une région de la République démocratique du Congo hein, qui sort de moult années de conflits avec des choses assez horribles qui ont eu lieu dans cette région. Et une nouvelle loi sur les violences conjugales, et ce qui s'adresse essentiellement aux femmes, a été votée il y a quelques temps. Et aujourd'hui, on voit apparaître, notamment dans la capitale, à Goma, de nombreuses femmes qui viennent déposer plainte pour des violences conjugales, ce qui n'arrivait pas, bien évidemment, avant. Donc il y a un réel progrès dans ce pays sur la condition des femmes. Malheureusement, une majorité de ces plaintes n'aboutissent pas. Alors pas à cause de la justice directement, mais parce que les femmes abandonnent. Les femmes abandonnent pour deux raisons. La première, c'est que la justice est lente. Il n'y a pas de moyens donnés à la justice. Du coup, elles craquent au bout d'un moment. Et le deuxième, c'est qu'elles n'ont pas les moyens d'aller en justice. Donc, on notera quand même que ça va dans le bon sens, cette loi qui condamne les violences conjugales. Maintenant, il reste à mettre des moyens pour aider ces femmes qui veulent faire reconnaître leurs droits, des moyens pour elles d'avoir accès facilement à la justice et donner les moyens à la justice pour qu'elle aille vite. Voilà, donc c'est quand même une info qui va dans le bon sens, le Nord Kivu étant une région sur laquelle on a parlé négativement pendant des années et des années. Il arrive maintenant des choses un peu positives. Alors, toujours dans ces infos africaines, on va parler du Tchad maintenant, puisque la candidate d'extrême droite française, Marine Le Pen, était en visite hier et avant-hier au Tchad. Alors, bien sûr, elle est allée voir avant tout les militaires de l'opération Barkhane, pour rappeler qu'elle était là pour soutenir le combat contre les djihadistes, hein, puisque c'est le but de cette opération, et qu'elle était la digne héritière, finalement, contrairement à ce qu'elle dit, aux politiques mises en place par le Parti Socialiste et par la droite, de France-Afrique, d'intervention de l'armée française en Afrique, etc., etc. D'ailleurs, elle a même été reçue par Idriss Déby Itno, le chef ultra-autoritaire du Tchad. Donc là, il n'y a pas de problème. Elle a beau être raciste, elle a beau on la connaît. Elle est quand même reçue par un dictateur ou un apprenti dictateur ou un président mal élu. Et ça ne pose aucun problème des deux côtés. Même si il y a quand même une réponse officielle du Tchad qui dit « Attendez, on la soutient pas. Hein. Elle vient, on la reçoit, on parle de tout ça, mais on n'est pas derrière elle. » Bon, ils ont quand même un peu honte. Je comprends. Hein, ils devraient avoir beaucoup plus honte que ça. Alors toujours au Tchad, on a appris aujourd'hui qu'un Français avait été enlevé. Un Français d'une soixantaine d'années qui travaillait dans une société minière. Donc dans la série de la France-Afrique, hein, les entreprises françaises ont des salariés français souvent qui viennent exploiter avec très peu d'argent rentrant dans les caisses de l'État. Donc c'est souvent plus du vol qu'autre chose. Donc on n'a pas plus d'infos que ça. Peut-être que cette société minière est respectueuse et de l'environnement et de l'État tchadien et des habitants. Enfin, on n'en est pas sûr. En tout cas, il est enlevé. On ne sait pas par qui, mais il était enlevé. Et pour terminer ces infos africaines, un truc glauque au possible. Vous savez, cette semaine, il y a une enquête qui est ressortie, menée en France par Mediapart, mais aussi par We Report et Cache Investigation, qui ont révélé qu'au moins 25 évêques français, alors ils ont parlé des prêtres pédophiles, des évêques pédophiles qui avaient soutenu les prêtres. Et dans toutes les infos qui sont sorties, et il y a un lien avec l'Afrique, c'est qu'on a appris qu'une partie des prêtres pédophiles, ça concerne une dizaine, dont ils savaient pas quoi faire parce que voilà, pour les soustraire à la justice notamment, ils les ont envoyés où ? En Afrique. Ils en ont envoyé aussi ailleurs. Hein, mais voilà, c'est l'Église catholique qui cache, on met les poussières sous le tapis. Bah là, c'est les prêtres pédophiles, on les envoie en Afrique. Alors, il paraît que ça marchait aussi dans l'autre sens. Des prêtres pédophiles africains sont venus en Europe. Voilà, c'est la
ils sont venus être cachés, hein, précisément. Oui. C'est ça que ce document montre aussi, c'est que on a un clergé qui cache des pédophiles en France, qui les ramène et qui les cache, et qui sortent un petit peu des listes et un petit peu de partout, et pourtant ils sont là, quoi. C'est un document qui n'est pas inintéressant à voir. Pour une fois, l'équipe a mis de côté son ton parfois très agaçant, parce qu'il est parfois sarcastique mais mal placé. Là on sent que c'est quand même un sujet grave et qu'on sent qu'il y a quand même eu un petit peu une prise de conscience sur le ton à employer aussi face à un tel sujet. Je vais vous parler des Émirats Arabes Unis. Alors on va se rappeler pour une fois qu'il y a 7 parties dans les Émirats Arabes Unis.
Ça veut dire qu'il y a 7 Émirats du coup.
Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Dubaï, Fajairah, Ras El Khaimah et Umm El Kawan. Voilà, c'était juste pour qu'on se rappelle ça, parce qu'on dit souvent les Émirats Arabes Unis, mais il faut se rappeler que c'est une fédération. En fait, moi je vais vous parler d'Amen Mansour. C'est un ingénieur en télécommunication, il a la quarantaine, il se présente comme un laïc et un libéral, ce qui n'est pas rien, hein, dans une monarchie arabe. Il avait raconté il y a pratiquement un an au journal Le Monde le harcèlement qu'il subissait. Alors il y avait des choses moins graves comme l'interdiction de voyager à l'étranger, mais c'est quand même une restriction de ses libertés. Il était surveillé, il a connu la filature, donc ça commence à faire flipper. Il a vu ses comptes bancaires vidés, là on flippe encore un petit peu plus, et puis il y a eu les menaces de mort et le passage à tabac. Il a connu aussi la prison. C'est un des derniers dissidents à parler, à tenter de parler librement aux Émirats Arabes Unis. Dimanche, il a été arrêté en pleine nuit à 3h15 hein, à son domicile d'Ajman. C'est pour ça que je parlais était, parce que pour l'instant, il risque d'avoir du mal à avoir une liberté pour agir et pour parler. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a 12 agents portant l'uniforme des forces de sécurité qui sont rentrés dans l'appartement, qui ont perquisitionné son domicile, qui ont fouillé dans la chambre des enfants, hein, paraît-il aussi. Et puis, il a été emmené sans que sa famille ne sache où il était emmené. Alors ça, c'est plutôt surprenant, parce que aux Émirats Arabes Unis, c'est comme dans d'autres pays, quand vous êtes arrêté, vous disparaissez, et puis personne n'est au courant, et on vous revoit parfois jamais, hein, ça se passe comme ça, par exemple en Chine, mais il y a bien d'autres endroits. Là, les autorités ont bien reconnu qu'elles avaient arrêté Ahmed Mansour. Il est accusé d'avoir porté atteinte à l'unité nationale et à la paix sociale, et d'avoir nué à la réputation de l'État, et incité à la désobéissance, je cite. Alors, c'est un procureur chargé de la lutte contre la cybercriminalité qui a déclaré que les autorités avaient trouvé des documents prouvant qu'il publiait de fausses informations et des rumeurs de nature à semer la sédition, le sectarisme et la haine, je cite toujours. Bon, globalement, on veut le faire taire, vous l'aurez compris, hein, il s'exprimait sur Internet, c'était un activiste et un blogueur qui était reconnu, il parlait des violations des droits de l'homme, des violences policières, par exemple. C'est ça, hein, la vérité, hein. Ce n'est pas un terroriste comme on aimerait nous le faire croire. Il avait déjà été en prison, je vous l'ai dit. Il avait eu une affaire aussi en 2016. Et puis, il y avait une grosse action hein, autour de lui au niveau international, ce qui fait que les poursuites avaient été abandonnées. Hein. C'est pas très vieux, hein. C'est il y a quelques mois. Les Émirats Arabes Unis, c'est un État qui est en train de se transformer en État policier depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe, les printemps arabes en 2011. Il y a eu vraiment une chape hein, qui s'est refermée sur les militants, sur les intellectuels. Il y a des gens qui sont pour l'instant toujours en prison. Ce qui était intéressant, moi je trouve, dans le travail qu'a mené jusqu'à présent Ahmed Mansour, c'est que c'est... un universaliste, si on peut dire ça comme ça, un internationaliste aussi. Il expliquait au monde, je défends tout le monde, les athées comme les islamistes, je vois l'être humain comme une abstraction. Voilà, pour lui, il y a des droits humains, point final, et c'est ça qu'il fallait respecter. Pour l'instant, il est en prison. Amnesty International a lancé un grand appel. L'organisation a peur qu'il soit torturé et fortement malmené. Moi, cette histoire, j'aimerais la mettre en rapport avec une autre histoire qui touche, entre autres, les Émirats Arabes Unis. Lundi, c'était au musée du Louvre à Paris. Monsieur Hollande a donné les grands résultats de l'appel qu'il a lancé en décembre dernier. C'est donc il y a quelques mois. Il avait appelé devant une quarantaine de représentants de pays à récolter 100 millions de dollars, ça fait 93 millions d'euros à peu près, d'ici 2009 pour sauver le patrimoine en danger. Et pour l'instant, c'est que 7 pays ont déjà apporté 76 millions de dollars pour alimenter ce fonds de dotation. La France a promis un engagement irréversible, selon les dires de M. Hollande, de 30 millions de dollars, ça fait 28 millions d'euros. Et dans la liste des 7 pays, on va retrouver par exemple la Suisse et le Luxembourg, des pays qu'on connaît pour des affaires de fiscalité, dirons-nous, de comptes cachés. On va retrouver le Maroc, qui connaît aussi quelques soucis avec les droits de l'homme. On va retrouver le Koweït, l'Arabie Saoudite et donc les Émirats Arabes Unis. À côté de ça, il y aura aussi la Corée du Sud qui devrait donner des sous, qui n'a pas donné encore son montant. La Corée du Sud qui est déjà bien empêtrée dans d'autres affaires. Et la Chine, hein, la Chine aussi, un grand pays de la démocratie. Donc, moi, je comprends mieux cette petite réflexion de Madame Azoulay, hein, ministre de la Culture, qui a dit « Cette cause nous rassemble au-delà de nos différences ». Je comprends mieux le sous-entendu, si vous voulez, c'est qu'effectivement, on a quand même, comment dirais-je, dans ces 7 pays, certes des États qui sont concernés, ou du moins leurs voisins, hein, sont concernés par la nécessité de sauver le patrimoine à cause des guerres, en l'occurrence. Mais on retrouve quand même des pays qui essayent aussi de bien agir, alors que chez elles, elles enferment les militants et les défenseurs des droits de l'homme.
Alors on va faire une petite plage religion avec trois petites infos. La première, c'est un truc qui est arrivé au Maroc, donc c'est au sujet de l'apostasie. Donc je vous rappelle, l'apostasie, hein, c'est pour un musulman quand il veut soit changer de foi, soit devenir athée ou agnostique. Et que se passe-t-il, hein, quand un musulman marocain, là pour le coup, décide de changer de religion ou de devenir athée, il mérite la mort, hein, puisque c'est dans un hadith. Vous savez qu'il y a deux textes, hein, dans l'islam qui font référence. Il y a les hadiths du prophète et le Coran. Et dans un des hadiths, il y a un hadith qui dit effectivement que toute personne qui quitte l'islam, quelle que soit la raison, mérite la mort. Alors là, on va parler. Alors jusqu'à maintenant, hein, il y a aucun grand penseur actuel, on va dire musulman, qui remet en cause ce hadith. Hein, ils ont pas ce courage-là. Et ben là, il s'est passé un truc assez incroyable. Hein. Le Conseil supérieur des oulémas du Maroc, donc l'instance religieuse suprême, on va dire, de l'islam marocain, a avancé, a fait un énorme progrès, mais de manière hyper subtile, parce que il paraît difficile pour ces gens, alors c'est la même chose dans les autres religions, de remettre en cause les textes religieux qui font référence. Donc ils remettent pas en cause le hadith qui dit que tout apostat doit mériter la mort. Non, mais ils ont annoncé qu'en fait il fallait pas voir quelqu'un qui changeait de religion comme un apostat, mais comme un renégat, laissant entendre qu'en fait un renégat, c'est quelqu'un qui trahit la collectivité. Donc, ce n'est pas aux religieux et aux religions de le juger, mais à l'État qui doit le juger pour trahison. Et ils disent, du coup, voilà, ils changent de religion, il y a des lois qui sont prévues pour ça par l'État, l'État doit condamner ou pas la personne qui change de religion. Du coup, ça sort cette apostasie de la, on va dire, du jugement des religieux pour passer dans le jugement de l'État. Et là, il y a tout à gagner, puisque le Maroc condamne pas à mort pour les gens qui trahissent la religion, entre autres. Et c'est quelque chose qui pourrait faire jurisprudence. Alors, bien évidemment, on pourrait imaginer qu'ils soient vraiment progressistes, hein, respectueux de la différence, respectueux des autres, et qu'ils disent le hadith est une erreur, et puis aujourd'hui, il n'y a pas de raison, on a le droit de changer de religion ou de ne pas croire en Dieu. Non, ils vont pas jusque-là. Mais aujourd'hui, au Maroc, suite à leur avis, hein, peuvent plus aller assassiner Salman Rushdie en disant, ben voilà, c'est un apostat, donc je dois le tuer, puisque officiellement, la plus haute instance religieuse du Maroc a dit non, c'est pas aux religieux de gérer et de juger cette personne-là, c'est les lois de l'État. Donc voilà, c'est quand même une énorme avancée, parce que c'est pas souvent qui se défaussent un petit peu et qui sont progressistes sans l'assumer quelque part, bien évidemment, mais qui sont quand même progressistes, du coup. Donc on le signale, c'est pas tous les jours. Et je pense que les athées marocains doivent être plutôt contents de cette décision. Et comme souvent le Maroc fait quand même pas mal référence aussi dans l'islam, dans les penseurs de l'islam, ça pourrait se répandre un petit peu et permettre d'amener un petit peu de tolérance. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors une mauvaise nouvelle maintenant. On va aller en Inde, dans le plus grand état de cet immense pays qu'est l'Inde, dans l'Uttar Pradesh, puisque c'est Yogi Adityanath qui a gagné la dernière élection. Donc c'est un religieux nationaliste hindou, issu du BJP, hein, le Bharatiya Janata Party, le parti de Narendra Modi, hein, qui est le leader actuel, le gouvernant de l'Inde. Donc voilà, il a gagné aux élections du 18 mars, hein, donc de samedi dernier. Alors c'est triste, hein, c'est une triste nouvelle, puisque cette victoire, ça permet de consolider l'influence de ce parti nationaliste et ultra-raciste sur l'emprise dans le pays, et notamment dans cette région. Alors faut savoir que ce gars qui vient de gagner a déjà été poursuivi par la justice indienne pour tentative de meurtre et intimidation criminelle contre des gens de sa ville, hein, c'est Gorakhpur, parce qu'ils étaient musulmans, Donc il est très anti-musulman. Il attaque pas les athées parce qu'il n'y a pas eu de raison, mais il déteste aussi les athées, hein, il n'y a pas de souci. Il n'est pas raciste dans ses attaques sur les autres. Par contre, il est raciste parce que il ne reconnaît que l'hindouisme comme religion. C'est d'où son adhésion plutôt au parti nationaliste hindou. Donc il a beaucoup attaqué l'islam, mais aussi les chrétiens qui sont présents aussi dans son état. Notamment avec des campagnes, ce qu'ils appellent de purification ou de reconversion assez forcée des musulmans et des chrétiens pour les inciter, voire les obliger à se tourner vers l'hindouisme. Alors, il y a eu plusieurs affaires qui avaient fait scandale en Inde. En tout cas, on notera quand même que malgré les mois qui passent et l'arrivée, il y a déjà de nombreux mois, du BJP au pouvoir, on pouvait imaginer, espérer que le fait d'être au pouvoir, le parti perde un petit peu de l'adhésion d'une partie de la population, parce que voilà, ça marche pas forcément ce qu'ils font. Sauf que pour l'instant, ils sont suffisamment habiles pour que ça passe, et malheureusement, ils progressent de partout. Et donc pour les prochaines élections, qui doivent être en 2019, il y a un risque d'une victoire généralisée de ce parti nationaliste et raciste, le BJP. Donc voilà, c'est une assez mauvaise nouvelle pour l'Inde, qu'on appelle souvent la plus grande démocratie du monde, hein, parce que effectivement, c'est la démocratie la plus peuplée de la planète. Voilà, c'est quand même une nouvelle qui est triste, même si elle fait suite à plein de nouvelles plutôt décevantes de la part des élections en Inde. Et puis pour terminer, une petite info drôle, sympathique. Donc ça se passe en Alsace, enfin dans cette région. Alors c'est l'Alsace, la Moselle, et en fait la région du Grand Est, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est concernée. En fait, c'est emmené par un mouvement qui s'appelle Les Profanes, qui décide, c'est une association qui décide d'essayer de promouvoir la laïcité. Alors, on sait qu'en Alsace-Lorraine et en Moselle, la laïcité n'existe pas, hein, puisqu'il y a le concordat et que voilà, les prêtres sont fonctionnaires et tout ça. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils attaquent notamment Christophe Kiefer, qui est représentant de Philippe Richert. Philippe Richert, c'est lui qui dirige la région et qui se mêle de religion. Et donc, ils ont demandé officiellement au conseil régional d'accepter une nouvelle religion au sein du système religieux du Grand Est. Et leur religion qu'ils ont portée, alors c'est chaque fois avec de l'humour, hein, ce qu'ils font, c'est l'ordre Jedi. Vous savez que c'est une religion qui est reconnue aux États-Unis et en Angleterre, hein, les adorateurs, alors qu'ils reprennent, hein, ce qu'il y a dans Star Wars, on en pense ce qu'on en veut, hein, c'est soit ridicule, soit drôle, soit ça fait peur. Mais bon, ils ont décidé de porter l'idée que cette religion, qui est reconnue par plusieurs pays, doit être aussi reconnue comme les autres religions, pour pas qu'il y ait de discrimination religieuse envers les Jediistes. Hein, on met deux i dans Jediste pour dire que c'est les adorateurs du Jedi. Bon, donc ils sont allés faire de la provoque et ils ont été retoqués. Ce qui montre, alors eux, ce qu'ils veulent démontrer, c'est que Philippe Richert ne devrait pas prendre de décision concernant les religions, et il en prend une, et il exclut une religion, parce que effectivement, il y a une discrimination religieuse qui est très importante. Je vous parle pas de la discrimination contre les laïcs ou contre les athées, mais il y a une discrimination religieuse, ce qui fait que il n'autorise pas les nouvelles religions à s'exprimer, et seules les religions déjà officialisées ont le droit d'exister. Alors ils sont allés loin, hein, parce qu'ils, du coup, dans leurs idées, dans les déclarations, ils attaquent le patron de la région en disant qu'il est passé du côté obscur de la force, hein, ils reprennent le discours de Star Wars. Tout ça sous le coup de l'humour, pour faire passer un truc important, c'est que l'État ne devrait pas se mêler de religion. Donc voilà, bon, ils ont été retoqués parce que effectivement Philippe Richert est intolérant envers les autres religions, envers les religions qu'il n'a pas mis dans son giron. Et puis il est aussi hyper intolérant envers les athées. Et c'est ce qu'ils voulaient démontrer, et c'est ce qu'ils sont arrivés à démontrer avec cette proposition un petit peu drôle de vouloir faire reconnaître cette religion des Jedi.
Alors, je vais poursuivre avec une petite grève, très brièvement. Vous le savez peut-être, nous célébrons le centenaire de la mort de Rodin. Donc, il y a un certain nombre de manifestations, et en particulier à Paris, il y a des expositions. C'est le cas du musée Rodin, qui présente une exposition confrontant Auguste Rodin à Amsel Kiefer, l'artiste allemand contemporain, depuis une semaine. Donc, normalement, tout ça est dans la joie et la bonne humeur, sauf au musée Rodin, où donc une grève a démarré hier. Je vous rappelle que c'est un établissement public. Alors, ce qui est marrant, c'est que il a été rapporté que sur la porte du musée Rodin, il y avait une affiche qui invitait à se rendre au Grand Palais pour voir l'autre exposition sur Rodin. Bon, c'est des expositions qui se croisent, hein, mais c'était marrant. Il a fallu renvoyer les visiteurs et les touristes. Alors, c'est essentiellement les agents d'accueil, de surveillance des salles, hein. Il s'agit pas de vigiles, et des caissières vendeuses qui sont concernées par cette grève. Il faut dire que dans au musée Rodin, les choses se dégradent. Il y a un manque de personnel avéré. Il y a beaucoup de CDD qui sont là pour remplir un petit peu les cases quand il y a un manque de permanent. Il y a donc une demande, hein, de création de poste de titulaire. Il y a une gestion des plannings a priori assez complexe, hein, qui fait que justement il faut boucher les trous, donc les gens ne s'y retrouvent pas vraiment. C'est une centaine d'employés, le musée Rodin. Il y a une demande aussi de meilleurs relationnels, de prise en charge des agents titulaires avec et des agents contractuels avec une de meilleure reconnaissance du travail. Donc ça va globalement assez mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, quand même, dans les musées français, hein, je vous en parle souvent des grèves. Ce qui est intéressant, c'est que c'était annoncé comme une grève reconductible. Et ben, elle a été reconduite aujourd'hui. Je suis allée voir sur le site du musée. Il y a un tout petit filet qui passe et qui dit que le musée est fermé ce jeudi 23 mars à la suite d'un mouvement social. Voilà, voilà, voilà. Pour la lutte de la semaine, je voudrais revenir très brièvement sur Calais. Hein, on vous a raconté d'abord une interdiction de prendre des douches, ensuite une interdiction de distribution de repas par les associations.
Pour les réfugiés.
Pour les réfugiés, hein, tout ça grâce au travail de la maire de Calais, Madame Bouchard, Natacha Bouchard. Eh ben, on vous avait dit que les associations allaient réagir. Elles avaient donc déposé un référé liberté contre ces arrêtés. Et hier, il y a bien un tribunal administratif qui a annulé ces arrêtés municipaux tant voulu par Madame Bouchard. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui sont à la rue, qui ont faim.
Et c'est une bonne nouvelle pour les associations, ça veut dire qu'on a encore le droit, en France, peut-être pas pour très longtemps, mais d'aider les gens qui sont à la rue, d'aider les gens qui là, des migrants, mais ça pourrait être n'importe qui, hein, du coup. Et la mairie peut pas s'y opposer pour des raisons politiques. Hein, c'est une mairie de droite, du coup, on avait vérifié, une mairie des Républicains. Mais on a Gérard Collomb qui fait pas des choses aussi horribles, mais qui est pas loin à mettre des gens à la rue. Il y a eu des actions qui ont eu lieu aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup d'infos, donc on en parle pas, mais voilà.
À la mairie du 3e arrondissement, voilà. Effectivement, qui a été occupée suite à l'expulsion d'un lieu d'un certain nombre de familles. Comme on n'y était pas, on n'en a pas beaucoup plus d'informations. On se dit que peut-être que demain, le cas du info du vendredi pourra y revenir.
Les élus de droite n'ont pas le monopole du racisme et du mépris des gens qui sont à la rue, qui se déplacent, qui fuient des conflits, qui fuient des zones dangereuses. Mais là, c'est une bonne nouvelle.
Ouais, les juges considèrent que les arrêtés interdisant les occupations, je cite, hein, les occupations abusives prolongées et répétées ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réellement poursuivi. Ils ont pour effet de priver une population en très grande précarité d'une assistance alimentaire vitale. Bon, bah, pour une fois, la justice... on est content, elle a agi. Et puis nous, elle nous énerve, cette Madame Bouchard. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait vous raconter ça. Alors maintenant, je vais ouvrir une page dinosaure. Alors si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, vous ne savez pas, mais la semaine dernière, j'expliquais aux auditeurs et aux auditrices que ça faisait plusieurs semaines que je me baladais avec le même sujet. Il faut savoir qu'on a toujours des sujets sur lesquels on pleure un peu, on a une petite larme parce qu'on les met de côté, et puis on se dit on y reviendra, puis en fait on n'y revient jamais, et c'est douloureux, douloureux, douloureux. Et pour une raison qui m'est absolument inconnue, j'ai décidé d'insister d'insister sur cette histoire de dinosaures. Je vous le disais, ce n'est pas essentiel à la survie de l'humanité, mais c'est une information qui montre aussi comment ça se passe. Alors, on va commencer avec cette première affaire qui touchait une vente aux enchères à Paris. Il s'agit en l'occurrence d'un squelette d'un plésiosaure, Zerafazora oceanis. C'est donc un dinosaure marin, si vous avez tout compris, qui était estimé à 450 000 euros, qui était programmé, des enchères qui étaient programmées le 7 mars à l'Hôtel Drouot à Paris, proposé par l'étude Binoche et Dikelo. Ce squelette a été retiré de la vente à l'issue d'une entrevue entre l'ambassadeur du Maroc en France et le commissaire Priseur. C'est une affaire qui a été médiatisée sur ce squelette. Il faut savoir que les propriétaires espéraient en tirer au moins 1 million d'euros, donc c'est quand même des sommes assez importantes. Et c'est l'Association pour la protection du patrimoine géologique du Maroc qui est intervenue, qui a appris en fait par un entrefilet dans la presse, il s'agissait en l'occurrence d'un entrefilet sur le site du Figaro.fr, comme quoi, oui, hein, vous voyez, des fois. Et l'association a demandé d'abord le retrait du squelette de cette vente aux enchères et ensuite le rapatriement de ce squelette. Alors tout le monde s'y en est mêlé, hein, du côté des autorités marocaines, le ministère de la Culture est intervenu. La grande question, c'est de savoir comment ce fossile a pu sortir du pays. Ben, en fait, assez simplement, puisqu'il n'y a pas de texte réglementaire au Maroc. Et donc... il y a un patrimoine qui, ben, vite arrive à sortir du pays. Ce qu'il faut se rendre compte quand même, que c'est un squelette de vieux de 66 millions d'années, un type qui n'existe qu'au Maroc. Alors, c'est un plésiosaure qui a été reconstitué, hein, il était complet. Donc il y a 4 fossiles, ça donne donc 75% de squelette reconstitué.
À partir de 4 fossiles de 4 animaux différents, donc en fait.
Bah, de 4 plésiosaures, oui. tout à fait. Hein, il y avait une grosse partie qui avait été découverte en 2011 au Maroc. Ce sont donc des gens du privé, hein, qui reconstituent ces dinosaures. Il y a un marché pour ça. En France, il est encore un tout petit peu nouveau, hein, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que le Maroc, comme d'autres pays, en particulier en Amérique du Sud, est un territoire connu pour abriter de nombreux fossiles, des minéraux, des météorites. Et donc, il y a un vrai commerce là-dessus. Et c'est aussi un commerce qui permet à des aux habitants de vivre. Hein. Donc, c'est toujours le même problème, c'est qu'on a des gens qui ont parfois le besoin de bouffer ou juste l'envie de s'enrichir et qui vont donc démonter tout ça. Ça passe pas par les mains de chercheurs scientifiques. Ça arrive auprès de gens qui sont en fait des vendeurs de curiosités. Vous savez, c'est une appellation un peu vintage, mais qui existe encore aujourd'hui. C'est des gens qui, en fait, ont l'habitude de vendre aux enchères un peu de tout. Et les dinosaures en font largement partie. Alors, le Maroc souhaite que ce squelette soit rendu au Maroc. Le Maroc est même prêt, les autorités sont même prêtes à mettre de l'argent, hein, pour récupérer le squelette, si il a été récupéré d'une manière tout à fait légale. Alors, il paraît que oui, il aurait été acheté dans une foire à Francfort, par des particuliers, enfin bon, ce sont en fait, hein, des entrepreneurs de la récup, si vous voulez, pour tout ça, pour les ventes aux enchères. Ce qui est marrant, c'est que dans le comité du 7 mars de Drouot, on nous explique qu'il y a eu cette rencontre, que tout se termine bien et que tout le monde est heureux, mais on nous rappelle surtout dans le communiqué à la fin qu'il y a aux côtés des 50 lots constituant cette vente d'histoire naturelle, parmi lesquels un imposant crâne de Triceratops, un squelette du reptile volant, le Pteranodon, longiceps, des fossiles d'espèces disparues, ainsi qu'un ensemble de météorites. Donc en fait, à la fin du communiqué expliquant qu'il y avait un retrait de la vente de ce squelette, on nous explique qu'il y en a quand même plein d'autres à acheter. Ah bah, c'est des ventes aux enchères, on part pas le nord, hein. Business is business. Il y a eu donc cette vente aux enchères, hein. Ça commençait à 450 euros au niveau des estimations. C'est le crâne de Triceratops, c'est difficile à dire tout ça, vieux de 75 millions d'années, qui a marqué les esprits. Il a été vendu pour 177 000 euros. Il était estimé entre 100 000 et 120 000 euros. C'est un particulier qui a acheté ce crâne. Donc particulier, alors vous allez me dire, bah, c'est quand même curieux qu'il y ait des gens qui les aient, ouais, chez eux.
Déjà qu'il y ait ces moyens-là, mais bon.
Et oui, et ben oui, mais c'est ça, hein, vous savez, l'art, hein, c'est chez les gens, c'est pas que dans les musées, voilà, c'est dans les galeries.
C'est voilà,
dans les,
c'est, voilà, c'est de la science. Plus
mais on est effectivement là dans quelque chose quand même qui s'approche effectivement quand même un petit peu d'une recherche scientifique. Hein. Mais il faut se souvenir qu'à Lyon, il y a un squelette d'allosaure, c'est un petit T-Rex, c'est un machin méchant, qui avait été adjugé en décembre dernier à plus d'un million d'euros. Ce qui est intéressant à partir de là, c'est qu'on voit aussi que ces squelettes, on leur donne des noms alors qu'ils sont reconstitués. Celui-ci, cet allosaure s'appelle Cannes. Ça a permis aussi de médiatiser cette vente aux enchères. Ça nous le rend sympathique, hein, avec son petit nom. C'est Kléber Roussillon, hein, qui est propriétaire des jardins suspendus de Marquessac en Dordogne, et puis de la caverne du pont d'Arc en Ardèche, des choses comme ça, qui ont acheté ce squelette d'allosaure.
Ah, mais du coup, c'est pour l'exposer.
Oui, tout
oui,
à fait.
C'est, donc,
voilà,
c'est pas si
oui,
négatif
oui,
que ça.
Mais c'est l'idée derrière, c'est qu'on sait que le dinosaure fait venir, et donc, là, en fait, il le trimballent sur leurs différents sites, leurs différents lieux touristiques, parce qu'ils savent très bien que ça fait venir le visiteur, que ça a de l'éclat, et donc aujourd'hui il est quand même de bon goût d'avoir son petit squelette de dinosaure. Par exemple à Bruxelles, là aussi on a souhaité nommer ce fossile de dinosaure, il faut quand même le dire, on est sur du squelette, il s'appelle Ben, ça permet aussi de pouvoir récupérer des sous. Ben en fait nous vient de Suisse, alors là c'est un platéosaure, c'est en fait un grand truc qui était herbivore, je vais y arriver. Il a été trouvé en Suisse et en fait il a été prêté, si vous voulez, à Bruxelles pour que le musée d'histoire naturelle le reconstitue, le restaure. Et à côté de ça, le musée d'histoire naturelle de Bruxelles va pouvoir lui-même l'exposer pendant un certain nombre de temps. Donc aujourd'hui, il y a un vrai marché des dinosaures, à la fois dans les musées, mais dans des lieux aussi de visite plus larges. Et puis, il y a un goût, évidemment, des particuliers, mais ça, comme à peu près tout type de collectionneur sur à peu près tous les sujets. Mais c'est surtout que voilà, c'est de retour très très à la mode d'avoir son petit dinosaure. On sait que ça fait venir les gens.
Alors, maintenant, nous allons parler d'un petit truc qui est arrivé le week-end dernier dans le 5e, puisque certaines vitrines de commerçants, boucheries et notamment fromageries ont découvert leurs locaux dégradés, surtout leurs devantures, avec des inscriptions signées de l'ALF. Donc, c'est le Front de Libération des Animaux, c'est l'acronyme ALF, ça doit être Army Liberation Front, avec des inscriptions du genre « Vegan ou crève, meurtrier, lait égale meurtre, lait égale viol ». Stop souffrance, go vegan. Alors à part le dernier slogan que je trouve toujours sympathique, puisqu'effectivement stop souffrance, go vegan, on comprend bien que les animaux qui sont exploités pour faire du lait, du fromage ou les steaks souffrent un petit peu, voire beaucoup. Et on va pas remettre en cause hein, le fait que des gens soient végétariens ou végétaliens, c'est-à-dire vegan, pas de souci là-dessus, hein, chacun fait ses choix, les assume et défend ses choix d'ailleurs, parce que c'est important de défendre ses choix. Non, c'est plutôt la manière, bien évidemment, de faire. Et on a le fascisme assez régulier dans ces mouvances-là, hein, qui est très présente, notamment vegan ou crève, hein, qui dit bah, si t'es pas vegan, toi, je te tue. Ça veut dire ça. Ça paraît assez incroyable d'entendre ça dans des mouvements qui se réclament, disons, du droit des animaux, puisque l'être humain est un animal aussi, il faut quand même le dire, ils ont l'air de mal connaître les choses. Donc ils défendent certains animaux, mais l'être humain, il le tue si cet animal mange les autres. Alors, je sais pas, ils vont tuer les renards aussi, hein, qui sont carnivores et qui vont manger les poules aussi. Non, parce qu'on est dans cet ordre-là. Voilà, je leur reconnais ce choix d'être vegan, mais de là à vouloir tuer tous les êtres humains, voire les êtres vivants qui mangent d'autres animaux, c'est quand même du fascisme, c'est très agressif. Quant à l'appellation lait égale viol, je trouve...
Moi j'avoue que ça m'a...
C'est irrespectueux. Quelqu'un, homme ou femme, enfin, qui s'est fait violer, c'est une souffrance assez forte, pour qu'on la rabaisse pas à l'utiliser dans une lutte pour le droit aux animaux de ne pas souffrir.
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a un vrai combat à mener sur la souffrance animale, mais qu'on a encore l'impression qu'il y a des gens qui cherchent le vocabulaire, qui cherchent la lutte, en fait. Parce que moi, quand on écrit « tu vas crever » ou « c'est comme le viol », c'est qu'on cherche sa lutte, c'est qu'on sait pas mettre les mots sur ce qu'on a envie de défendre. Et c'est ça qui m'embête aussi. Mais l'histoire du viol, moi, j'avoue que ça m'a... ça me choque, en fait.
Finalement, le seul slogan que j'aime bien, c'est le « stop souffrance, go vegan », ça dit ce que ça dit, c'est clair. Il n'y a pas d'agressivité forcément envers les autres. Ils ont le droit de défendre leur manière de penser, de manger, mais sans vouloir assassiner la majorité de la population. Mais alors, ils vont toujours très loin, les véganes. Ils sont d'ailleurs très incohérents, on va quand même le dire. Je suis allé voir sur un site que je vais voir régulièrement, qui s'appelle vegan.fr. Et par exemple, ils font l'apologie. Alors, déjà d'une créatrice de mode qui s'appelle Stella McCartney, qui a un article sur le site actuellement, qui est donc de la mode pour les ultra riches. Donc déjà, ils remettent pas en cause hein, la mode, les ultra riches, tout ça, pas de souci. T'as le droit d'être ultra riche à partir du moment où ça tue pas des animaux. Donc déjà, ils sont pas dans la lutte sociale. Hein. D'ailleurs, ce sont des gens qui sont capables de porter des produits fabriqués par des enfants, ça pose aucun souci.
Mais non, parce que c'est du monde qui est en plastique. Ouais. Voilà. Donc là, c'est une lutte qui est compliquée, parce qu'à moins de mettre des espadrilles en corde, comme on en discutait un peu plus tôt dans la journée, faut être vraiment radical et c'est compliqué dans son comportement personnel d'agir. On est d'accord.
Et d'ailleurs, donc, ils défendent, l'article met en valeur cette créatrice de mode pour milliardaires, millionnaires et riches, qui s'appelle Stella McCartney, puisqu'elle a décidé depuis cette année, de ne plus utiliser de cuir issu des animaux, des vaches notamment, mais elle utilise ce qu'on appelle un cuir synthétique. Alors même si elle a une démarche en essayant d'avoir des produits qui sont en utilisant des bioplastiques par exemple, sauf que ça va pas si loin que ça, puisque on peut voir sur son site que le polyester et le polyuréthane qu'elle utilise, donc c'est des produits qui mettent des centaines d'années à se dégrader dans la nature, hein, sont faits, alors certes, à 50% d'huile végétale, issue de trucs un peu durables, et 50% de pétrole. Voilà. Donc, vous utilisez du cuir, ça se dégrade, ça pollue pas, ça tue personne. Et là, 50% de pétrole, on sait que ça va pourrir les océans, ça finit toujours dans des décharges, c'est jamais recyclé, retraité, et quand c'est brûlé, de toute façon, ça émet du CO2, c'est dégueulasse. Bon, bref. D'ailleurs, on a déjà vu des manifs de vegans arriver en voiture, c'est-à-dire émettre des particules cancérigènes qui vont tuer ou rendre malades des enfants. Mais par contre, il faut protéger les petits animaux. D'ailleurs, dans la dernière incohérence des véganes que j'ai trouvée en préparant ces articles, c'est sur les animaux domestiques. Les véganes ne rejettent pas, ils sont pas pour que les libertaux vivent, les animaux vivent libres. Ils défendent le droit d'avoir un animal domestique. Donc on voit des véganes se balader avec des chiens. Or, je suis désolé pour eux, mais c'est assez incohérent. Le chat ou le chien, ils ont le droit d'être libres. Si on est végane, il faut aller jusqu'au bout et lutter contre les animaux domestiques aussi. Et ça apparaît pas. Au contraire, ils sont contents quand des gens vont défendre, empêcher les gens d'abandonner leurs animaux, etc. Donc il y a une pas mal d'incohérences. Donc c'est une lutte, et pourtant c'est une lutte qui date du début du 20e, donc ça commence à exister depuis longtemps. Et il y a toujours dans les militants, notamment les plus extrêmes, les plus fascistes qui ont agi là, cette incohérence. Alors oui, il faut sortir de la surconsommation de viande, voire pour ceux qui arrivent et qui ont envie sortir totalement de la consommation de viande ou des produits issus des animaux, mais c'est pas en étant agressif, en voulant tuer les gens, qu'ils arriveront à convaincre les gens de diminuer, voire d'abandonner la consommation de produits animaux.
Je mettrais juste un bémol sur le cuir, le traitement du cuir est plutôt une industrie assez polluante.
Ah, très très polluante.
Hein, les teintures aussi, que ce soit les canapés ou les chaussures. Les canapés, c'est une catastrophe parce qu'on utilise des peaux, on les traite. Enfin, c'est de la sous-peau en plus parce qu'il y a un vrai marché pourri aussi du cuir. Donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie bataille aussi sur cette utilisation finalement du cuir. Moi, je maintiens que l'espadrille en corde faite en France par des adultes consentants reste la meilleure solution de marché. Écoute.
Donc, si on croise un vegan, on verra les chaussures qu'il utilise. Il y a quand même des chances qu'il ait des chaussures avec du pétrole. Voilà, bah bon, bref. C'était pour reparler de ça, cette action d'éclat qu'ils ont fait le week-end dernier. Et puis, pour terminer avec une dernière petite info, un truc un peu marrant, si ça pouvait être marrant et que personne n'avait été condamné, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est un élu écologiste de Los Les Lille, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Donc, qui se déplace à vélo, c'est un vrai écolo du coup. Il y avait une expulsion d'un camp de Rome le 6 avril 2016. Lui, il avait l'habitude d'aller les aider. Donc le jour de l'expulsion, il est passé en vélo pour voir comment ça se passait, si ça se passait pas trop mal. Hein, on connaît les forces de l'ordre, en général ça se passe pas bien. Donc c'est un camp de Rome là, qui était dans l'ancienne prison de Los. Quand il est arrivé, il a pu passer avec son vélo le premier barrage policier. Le deuxième barrage policier, il se fait arrêter, un flic le pousse, il tombe à vélo et il tombe sur un autre flic. Et sur le flic qui est sous le vélo se fait mal à un doigt. Et donc il est poursuivi, c'est quand même drôle, pour violence à agent avec arme par destination. Et l'arme, c'est le vélo. Puisque c'est le vélo qui a touché le, quand il est tombé, qui a touché le policier. Bon, ça serait anecdotique s'il risquait pas 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Finalement, on l'a appris, le rendu du jugement est tombé hier. Il a quand même été condamné à 500 euros d'amende avec sursis, donc il paiera rien. Sauf que dans les faits, il est condamné. Or, alors il y a deux versions, mais vraisemblablement il est tombé, il a pas fait exprès de, il a pas jeté son vélo sur le flic, hein, en plus, et que ça paraît quand même ridicule ce qui lui est arrivé. Mais bon, par principe, l'État l'a condamné, même si c'est avec sursis. Voilà, donc le vélo est une arme par déposition. Tout peut être une arme par déposition, ceci dit. Voilà, on fait un petit agenda avant de se quitter.
Allez, allons-y.
Je suis pas sûr que l'émission suivante arrive, hein, parce que pour l'instant ils sont pas là. Donc on va parler de Henri David Thoreau. Henri David Thoreau, c'est un écrivain qui est soi-disant, et vous aurez la réponse, un instigateur, un inspirateur des idées de la décroissance. Ça date du siècle dernier, bien évidemment. Mais c'est effectivement quelqu'un qui a travaillé beaucoup, qui a écrit des livres là-dessus, sur la démocratie aussi, sur pas mal de choses. Donc la librairie Terre des Livres, dans le 7e ou le 3e, je sais plus, c'est peut-être le 7e. Samedi à 15h, il y a une rencontre avec deux livres autour de la décroissance et de Henri David Thoreau. Le premier, c'est avec Michel Granger qui a écrit Pensée sauvage, autour du livre de Pensée sauvage de Thoreau. Et il y a Pierre Thiessec qui est là, qui a écrit lui un livre qui s'appelle Aux origines de la décroissance, virgule, 2. 50 penseurs. Donc il doit y avoir Thoreau dans ces 50 penseurs. Donc ça, c'est samedi à 15h. Samedi à 15h, il y a aussi une manifestation qui s'appelle Liberté de circulation pour soutenir les réfugiés, les migrants et les migrantes qui sont malmenés, hein, par les politiques racistes mises en place par les différents courants politiques. Donc c'est organisé par le collectif de soutien aux réfugiés et aux migrants et migrantes de Lyon 69. Il y a pas mal de signataires, c'est une vraie manif officielle déposée. C'est pour ça que j'en parle, c'est pas un truc où vous pouvez pas emmener vos enfants parce qu'ils vont se faire taper dessus. Ceci dit, on n'est jamais à l'abri de violences policières, bien évidemment. Mais au départ, c'est quelque chose d'officiel et de déposé, appelé par Atacron, par exemple, la CGT Vinatier, CGT Éducation du Rhône.
Ouais, on y retrouvait l'eau, Alternative Libertaire, la CNT, le collectif 69 Palestine.
Enfin, voilà, la Ligue des Droits de l'Homme, le MRAP. Donc c'est samedi, place des Terreaux à 15h. Et puis on va aller mardi, et on va aller du côté de l'Amérique latine, avec c'est dans le cadre, hein, du festival Reflet du cinéma ibérique et latino-américain, hein, qui organisé chaque année, un très très beau festival avec plein de films dans tous les domaines issus du monde ibérique et latino-américain. Et il y a une projection débat, ce sera mardi à 18h30 à la MJC de Villeurbanne, qui est 46 cours Jean Damido, autour de Evo Morales. C'est un président qui est un Indien qui est président de Bolivie. Et c'est la première fois qu'il y a un président issu d'une population dite indigène qui arrive au pouvoir, qui fête ses 10 ans de pouvoir. Et il y a un film autour de ce qu'il a fait. Ça s'appelle Evo Morales, la promesse du changement. Donc voilà, dans le cadre de ce festival Reflet du cinéma ibérique et latino-américain, donc à la MJC de Villeurbanne, mardi à 18h30.
Eh ben, nous allons nous laisser pour ce jeudi 23 mars 2017 et nous retrouvons la semaine prochaine.
Et demain soir à 19h pour le Canu Info du vendredi, où vous pouvez nous retrouver aussi sur les blogs, puisqu'il y a un blog, vous tapez blog Radio Canu, Canu Info du jeudi, nous on a un petit blog à part, et vous retrouvez les émissions si vous avez raté le début par exemple. Et a priori, l'émission suivante n'a pas l'air d'être là, on va vous laisser avec les bandes continues de Radio Canu, la musique programmée, choisie amoureusement par les animateurs et animatrices de la plus rebelle des radios.
Ciao, bye, bonne soirée.